Je vous promets, c'est la dernière fois que vous me voyez sur ce pupitre de la journée. Après, dans cette communication centrée sur l'étude du code, nous avions 6 questions de recherche majeures. Première question, qui sont des questions qui sont au carrefour du scientifique et du pédagogique, c'est-à-dire que ce sont à la fois des questions que les chercheurs construisent, se posent, font avancer, et ce sont les questions que les maîtres se posent, nous posent, depuis des années que nous travaillons en formation, nous savons que ce sont des questions vives. Comment, non pas faut-il, tout le monde est d'accord, il faut, mais comment conduire cette étude du code, plus ou moins lentement, plus ou moins rapidement, quelle correspondance, dans quel ordre, à quel tempo, voilà toute une série de questions très concrètes, très pratiques que les maîtres se posent. Nous voulions des réponses, nous en avons à vous proposer. Sur quel support conduire ces leçons? Comment articuler code et sens? Quel support de lecture? Nous avons fait un zoom sur la 10e semaine, celle que nous avons observée. Qu'est-ce qui s'y passe? Quel rapport avec l'étude du code? Et y a-t-il des manières de faire plus favorables que d'autres? Réponse dans quelques minutes. Troisième question sur les interactions lecture-écriture, sur le poids non seulement des activités de décodage pour aller de l'écrit vers l'oral, mais aussi des activités d'encodage pour aller de l'oral à l'écrit. Réponse dans quelques minutes. Le poids de la lecture à haute voix, faut-il en faire, plus ou moins, est-ce que ça paye, quelle importance lui accorder? Réponse dans quelques minutes. L'impact des choix de manuel, j'ai présenté tout à l'heure 2 séries de variables, y a-t-il un certain nombre d'effets qui sont liés à cette variable manuelle? Et dernière question, le poids des compétences de décodage dans la performance en compréhension. C'est la question du rapport entre la maîtrise du code et la qualité de la compréhension des textes, puisque c'est la cible qui nous intéresse en lecture autonome.
Bien, bonjour. Donc, je vais reprendre les 4 premières questions de recherche qui viennent d'être énoncées par Roland Guagou, en commençant par celle qui porte sur la planification de l'étude du code. Les résultats que je vais vous présenter donc, concernent la description des pratiques de classe, mais aussi l'influence de ces pratiques sur les performances des élèves, en code ou en écriture. Donc, tout d'abord, quelques précisions sur la présentation. Lorsque je vais aborder les pratiques d'enseignement, je vais vous présenter des indicateurs statistiques qui concernent donc la moyenne, la médiane des 131 classes, mais aussi une répartition par décile que vous avez pu déjà observer dans la première communication, enfin, sur la même forme que vous avez pu observer au cours de la première communication. Lorsque je vais aborder l'influence des pratiques d'enseignement sur les performances des élèves, ce sont des résultats que nous avons obtenus à partir de traitements statistiques réalisés à partir d'un modèle d'analyse statistique multiniveau. Et ces traitements statistiques ont été effectués soit sur l'ensemble des élèves de l'étude, soit sur des sous-groupes d'élèves qui donc obtiennent des scores qui sont faibles, intermédiaires ou forts à l'entrée du cours préparatoire, à la fois en code ou en écriture, puisque ce sont nos 2 cibles d'apprentissage pour cette présentation. Nous avons aussi catégorisé les pratiques d'enseignement, et donc de manière à identifier des effets de seuil, et nous l'avons fait encore une fois soit sur l'ensemble des élèves de l'étude, soit sur des sous-groupes d'élèves, donc des élèves qui sont faibles, intermédiaires ou forts, à l'entrée du cours préparatoire. Donc je commence par la planification de l'étude du code et par le tempo que nous avons défini comme le nombre de correspondances graphophonémiques enseignées au cours des 9 premières semaines de classe. Donc si on observe les pratiques de classe, sur cette répartition en décile, donc, comme Roland le disait en première communication, chaque barre de cette représentation comporte 13 classes. Et donc le tempo moyen des classes du premier décile est de 6. Ensuite, ce tempo croît de manière régulière, de décile en décile. Notre distribution est ici présentée de manière ordonnée et croissante, jusqu'au 9e décile, donc il y a une certaine régularité. Et ensuite, on observe un saut quantitatif entre le 9e et le 10e décile, donc ce qui nous a amené à nous intéresser à la composition de ce 10e décile. Nous sommes notamment demandé si les classes de ce 10e décile étaient des classes dans lesquelles les maîtres donc, utilisaient des manuels en particulier qui les incitaient à enseigner de manière relativement rapide les correspondances entre les lettres et les sons. Alors, il n'en est rien, puisque la composition de ce dernier décile est la suivante. Il y a 4 enseignants qui n'utilisent pas de manuel de lecture, 3 enseignants qui s'appuient sur une approche intégrative, qu'on a définie donc comme une approche qui mêlait à la fois la production de texte, la compréhension de texte, l'identification et la reconnaissance de mots, et aussi les pratiques d'acculturation. Il y a quatre classes qui utilisent donc le manuel à l'école des albums, qui lui aussi relève d'une approche qui est intégrative mais rapide, puisque dans ce manuel, le tempo qui est proposé est relativement rapide. Et enfin, il y a deux classes qui relèvent donc qui utilisent des manuels qui relèvent d'une approche phonique, donc qui organisent l'enseignement de l'apprentissage autour de la progression du code. Maintenant, on va s'intéresser donc à l'influence du tempo sur les performances des élèves, et tout d'abord sur les performances des élèves en code. Eh bien, on s'aperçoit que le tempo influence significativement et positivement les performances de l'ensemble des élèves jusqu'à un maximum de 15. C'est-à-dire ici que dans notre échantillon, c'est la valeur de 15 qui constitue une valeur optimale. Cette valeur est de 14 pour les élèves qui sont initialement faibles en code. Si on regarde maintenant un autre groupe d'élèves, qui sont les élèves initialement forts à l'entrée du groupe, donc à l'entrée du groupe préparatoire, on s'aperçoit que plus le tempo est rapide, plus il favorise leur performance. Et lorsqu'on catégorise les pratiques d'enseignement, ici nous avons créé trois catégories de pratiques d'enseignement, les enseignants qui étudient entre 5 et 8 correspondances, donc au cours des 9 premières semaines de classe, les enseignants qui en étudient entre 8 et 15, et puis les enseignants qui en étudient plus de 15, eh bien on s'aperçoit que pour l'ensemble des élèves, ce sont donc les enseignants qui étudient entre 8 et 15 correspondances qui favorisent leurs apprentissages par comparaison à des élèves à qui on en enseigne moins de 8. Donc ici, il y a une indication sous échantillon total, qui est P inférieur ou égal à 0,10, qui signifie que nous avons un indice de confiance qui est un petit peu moins élevé que lorsque nous parlons d'influence significative. Alors ici, en l'occurrence, on parlera de tendance. Concernant l'influence du tempo sur les performances des élèves en écriture, eh bien on s'aperçoit que là aussi, le tempo influence les performances des élèves en écriture et que c'est une tendance. Par contre, si on observe le groupe des élèves qui obtiennent des scores intermédiaires à l'entrée du cours préparatoire, cette influence est significative et positive. Lorsqu'on crée des catégories de pratiques d'enseignement, donc ce sont les mêmes catégories de pratiques d'enseignement que j'ai présentées à la diapositive précédente, eh bien on s'aperçoit que pour l'ensemble des élèves, ce sont les tempos qui sont supérieurs à 15 qui leur permettent d'obtenir des résultats significativement meilleurs que les élèves à qui on enseigne moins de 8 correspondances au cours des 9 premières semaines de classe. Donc si on essaie de tirer une conclusion de l'ensemble de ces résultats, ce n'est pas simple parce qu'il y a des effets qui s'exercent sur des populations différentes et à des seuils aussi différents. Pour les élèves faibles, par contre, donc ici c'est une idée importante quand même, pour les élèves faibles, qui nous intéressent particulièrement parce que ce sont les élèves qui sont les plus dépendants d'intervention pédagogique, on s'aperçoit que ce sont les tempos qui sont compris entre 8 et 15 qui favorisent leurs apprentissages en comparaison à des élèves à qui on enseigne moins de 8 correspondances. Donc en conclusion, comme je disais juste avant, on peut dire que l'élévation du tempo favorise les performances des élèves, que ce soit en code ou en écriture. Et que donc, lorsqu'on s'intéresse aux élèves qui obtiennent des scores initialement faibles en code et en écriture, tout d'abord en code, on s'aperçoit que le tempo de 14 est donc une valeur optimale, mais que l'influence donc croît jusqu'à ce tempo de 14. Pour les élèves qui sont initialement faibles en écriture, ce sont les tempos qui sont compris entre 8 et 15 qui favorisent leur performance, par comparaison à des tempos inférieurs à 8. On peut dire d'une manière générale que les tempos inférieurs à 8 pénalisent les performances de tous les élèves. Et si on remet ici la représentation en déciles que j'ai présentée tout début de cette communication, on s'aperçoit que les tempos moyens de 2 déciles sont inférieurs à 8, donc le seuil que nous avons identifié comme pouvant pénaliser les performances des élèves. On remarque aussi que les valeurs optimales que nous avons observées donc, se situent proches de la moyenne des déciles des classes. Des classes des 8e et 9e déciles, pardon. Et donc on s'aperçoit que ce sont des classes qui vont relativement vite dans l'enseignement des correspondances graphèmes-phonèmes. Donc contrairement à peut-être une idée qu'on pouvait avoir sur le fait qu'il faille aller relativement lentement pour les élèves qui sont initialement faibles, eh bien ce n'est pas tout à fait vrai, il faut aller plutôt vite et donc vers des tempos qui s'approchent de 14 ou 15. Je passe maintenant au choix des correspondances graphophonémiques. Choix des correspondances graphophonémiques que je vais aborder sous l'angle du pouvoir déchiffrer que ces correspondances graphophonémiques offrent aux élèves. Alors, ici, on s'aperçoit dans ce tableau, je vais surligner deux lignes en rouge, que les correspondances graphophonémiques offertes aux élèves donc, ne leur permettent pas de déchiffrer la même quantité de graphèmes dans un texte. Je vais commenter les deux lignes qui sont apparues en rouge juste maintenant. Donc la première ligne du A. A accent aigu et A accent circonflexe avec leur correspondant phonémique Léa antérieure et postérieure, offrent un pouvoir déchiffré aux élèves qui s'élève à 6,92%. Donc, autrement dit, si on enseigne cette ligne de correspondance graphophonémique aux élèves, les élèves peuvent déchiffrer seuls 6,92% des textes écrits en français. Si maintenant on regarde la cinquième ligne du tableau et le graphème donc O écrit AU avec ses correspondants phonémiques, les O fermés et ouverts, on s'aperçoit que cette ligne de correspondance offre aux élèves un pouvoir déchiffré de 0,39%. Autrement dit, en fonction du choix des correspondances graphophonémiques qui est fait par les enseignants, on n'offre pas du tout le même pouvoir déchiffré aux élèves. Et on sait, lorsque les élèves sont confrontés à des textes supports de lecture, que si le pouvoir déchiffré est suffisant, cela est mobilisateur pour leurs apprentissages et cela leur permet même de générer un auto-apprentissage, c'est-à-dire qu'ils sont en mesure d'identifier d'autres correspondances graphophonémiques que celles qui leur ont été explicitement enseignées. Qu'en est-il au niveau des pratiques d'enseignement ? Eh bien, on s'aperçoit que plus de 60% des enseignants donc, étudient les 8 correspondances graphophonémiques qui sont présentées sur la diapositive avant la 10e semaine de classe. Et que parmi ces 8 correspondances graphophonémiques, 6 font partie des plus fréquentes en français. Donc ici, elles apparaissent en rouge. La question qui se pose alors ici, donc à ce niveau de la présentation, c'est de se dire, est-ce que le fait de choisir un tempo qui soit optimal ou proche des valeurs optimales qu'on a pu identifier suffit à placer les élèves dans des conditions les plus favorables aux apprentissages, notamment lorsqu'ils se retrouvent à confronter à des textes supports de lecture dans les situations qu'on appelle les situations de découverte de textes. Eh bien, nous pensons que non, et qu'il faut s'intéresser aussi au contenu linguistique de ces textes supports. Donc, c'est la raison pour laquelle nous avons créé une variable que nous avons appelée rendement effectif et qui correspond à la part de texte directement déchiffrable par les élèves. Alors, pour bien comprendre ce dont il s'agit, je vous donne un exemple. Donc un texte qui est extrait d'un album de littérature de jeunesse et qui a été proposé aux élèves de cours préparatoire au cours de la 10e semaine de classe, c'est-à-dire à la mi-novembre, dans notre étude Lire-Écrire CP. Donc ce que nous avons fait, c'est que nous avons segmenté ce texte en graphèmes, nous avons identifié les graphèmes, donc les correspondants phonémiques de ces graphèmes, et nous avons mis en évidence ce qui avait été explicitement enseigné par le maître ou la maîtresse de cours préparatoire. Donc en faisant cela, on s'aperçoit qu'un élève de cours préparatoire de cette classe, au mois de novembre, est en mesure donc de déchiffrer seul les graphèmes qui apparaissent en rouge à l'écran. Alors bien sûr, il s'agit des graphèmes, des correspondances graphophonémiques qui ont été explicitement enseignées par le maître. Ce qui signifie qu'il y a peut-être des élèves qui en savent plus, sûrement même, mais que nous, ce qui nous intéresse, ce sont les élèves qui sont les plus dépendants de l'intervention pédagogique et probablement qu'eux, ils n'en savent pas bien plus que ce qui est présenté actuellement. Donc, dans cette classe dans laquelle le tempo était de 13, eh bien, cela offre un pouvoir de déchiffrer directement le texte à hauteur de 33%. Si on ajoute à cela les mots qui ont été entièrement mémorisés, donc, c'est-à-dire ceux pour lesquels les élèves ne connaissent pas forcément l'ensemble des correspondances graphophonémiques, comme le disait Roland tout à l'heure, mais qui ont été maintes fois écrits, épelés, appris au cours de dictée, on s'aperçoit que cela élève le rendement effectif à 38%. Donc, toutefois, ce rendement effectif reste relativement faible en comparaison de ce qu'on a pu aussi observer dans l'étude et que je vous présenterai dans les diapositives qui parleront des pratiques de classe. Donc voici les graphèmes, qui sont non déchiffrables par les élèves de cours préparatoire qui maîtrisent uniquement les correspondances graphophonémiques enseignées et seulement elles. Concernant donc les pratiques de classe, eh bien on s'aperçoit sur cette représentation en déciles que les classes du premier décile offrent un rendement théorique à leurs élèves qui est en moyenne de 23%. Et si on regarde de l'autre côté de cette représentation, certaines classes offrent à leurs élèves des textes qui offrent des rendements effectifs, déchiffrables à hauteur de 71%. Lorsqu'on regarde les effets de ces rendements effectifs sur les performances des élèves, et d'abord sur les performances des élèves en code. Alors ici, pour voir quels étaient les effets, il a fallu catégoriser les pratiques d'enseignement de manière à essayer d'identifier des effets de seuil. Eh bien, on s'aperçoit que pour l'ensemble des élèves, donc les élèves à qui on propose des textes qui sont directement déchiffrables à plus de 31% obtiennent des résultats qui sont significativement meilleurs que les élèves à qui on propose des textes qui sont déchiffrables directement à moins de 31%. Lorsqu'on s'intéresse aux élèves qui sont particulièrement faibles à l'entrée du cours préparatoire, on note que pour eux, ce sont les textes qui sont directement déchiffrables à hauteur de 55%, donc de plus de 55%, qui leur permettent d'obtenir des résultats significativement meilleurs que les textes qui sont déchiffrables à moins de 31%. Si on regarde les performances sur l'écriture, là aussi, on s'aperçoit qu'il y a une influence de la part de textes directement déchiffrables par les élèves sur leur performance en écriture. Ici, c'est une tendance. Et lorsqu'on catégorise les pratiques d'enseignement, on s'aperçoit que les élèves qui bénéficient de textes déchiffrables entre 31 et 41% obtiennent des résultats significativement meilleurs que les élèves à qui on propose des textes déchiffrables à moins de 31%. Et lorsqu'on regarde les élèves qui obtiennent des scores intermédiaires à l'entrée du cours préparatoire, et on pouvait s'y attendre étant donné l'influence linéaire qu'on avait déjà perçue juste avant. Donc pour ces élèves, tous les textes qui sont déchiffrables à plus de 31% leur permettent d'obtenir des résultats significativement meilleurs que les textes qui sont déchiffrables à moins de 31%. Si on essaie de tirer une conclusion sur l'ensemble de ces données, on s'aperçoit que les textes qui sont directement déchiffrables à moins de 31% pénalisent les performances des élèves, que ce soit en code ou en écriture. Concernant les élèves qui sont initialement faibles, pour le code, on s'aperçoit que les résultats des élèves sont significativement meilleurs lorsque les textes qu'on leur propose sont déchiffrables à plus de 55%. On note aussi que pour les élèves qui sont initialement faibles en écriture, ce sont les textes compris entre 31 et 41% qui leur permettent d'obtenir des résultats significativement meilleurs par comparaison à des textes qui sont déchiffrables à moins de 31%. Donc vous voyez qu'on obtient des effets positifs qui s'exercent à des seuils différents en fonction à la fois des cibles d'apprentissage et puis des populations d'élèves. Cibles d'apprentissage, donc code ou écriture ici, et populations d'élèves, élèves initialement faibles, intermédiaires ou forts, dans chacun des domaines concernés. Donc nous pensons que les données que nous venons, enfin les résultats que je viens de présenter, lorsqu'on parle du tempo, sont assez aisément accessibles pour les enseignants et qu'ils peuvent déjà en faire quelque chose. Par contre, en ce qui concerne le rendement théorique, qui nécessite un certain nombre de traitements, c'est beaucoup plus difficile. Donc à l'Institut français d'éducation, avec le soutien de la direction, Michel Lussault, Catherine Perrotin, et l'aide des ingénieurs en informatique de l'IFE, nous avons décidé de créer un outil qui permettra d'obtenir les rendements effectifs des textes supports que les enseignants de cours préparatoires proposent à leurs élèves. Nous espérons pouvoir proposer cet outil à l'horizon de la rentrée 2016, si nous arrivons à réunir toutes les conditions, mais le projet est bien avancé. Et en quelque sorte, ça pourrait donner une autonomie de déchiffrage offerte aux élèves par les enseignants de cours préparatoires. Je passe à la deuxième partie de l'exposé ici, qui va concerner donc deux autres questions de recherche, parmi les six que Roland Guagou a présentées tout à l'heure. Donc on va les aborder sous l'angle des durées d'enseignement. Ici, il y a donc le décodage, l'encodage et la lecture à haute voix. Les durées d'enseignement, donc, et je commence tout de suite par le décodage. Alors, le décodage, les durées d'enseignement consacrées au décodage, bien qu'elles soient relativement hétérogènes dans notre échantillon, n'ont pas permis d'identifier d'effet, que ce soit en code ou en écriture, ni auprès des sous-groupes d'élèves qui soient initialement faibles, forts ou qui obtiennent des scores intermédiaires à l'entrée du cours préparatoire. En revanche, c'est différent pour l'encodage. Donc, l'encodage que nous avons défini ici comme la transcription de la chaîne sonore à l'écrit. Donc cet encodage a une composition qui est la suivante. Vous avez vu au début que nous avons parlé donc d'une typologie des tâches. Et donc l'encodage regroupe les tâches suivantes. D'une part, l'écriture sous la dictée, donc de lettres, de syllabes, de mots, de phrases ou de textes. Dans ce cas-là, c'est le maître forcément qui décide des unités à écrire. Au passage, nous avons relevé que dans notre étude, c'est l'écriture de mots qui revient avec la plus grande intensité. Bien qu'au début de l'année, il y a aussi de l'écriture de syllabes. Il y a une deuxième tâche qui compose cette variable didactique, qui est donc l'écriture à partir d'unités linguistiques déjà imprimées, cette fois-ci lorsqu'on essaye de créer des syllabes ou des mots à partir donc d'étiquettes. Il y a un troisième type de tâche qui revient dans cette composition, c'est la production en dictant à autrui, lorsque le maître demande à un élève de lui préciser les lettres et les syllabes dont il a besoin pour écrire les mots qu'on lui dicte. Et enfin, il y a un dernier type de tâche ici, qui est donc produire en encodant soi-même, qu'on appellera dans la présentation qui va suivre, dans le diapositive qui vont suivre, l'encodage autonome. Donc, je vais d'aborder avec vous maintenant les effets donc, de l'encodage, donc de la variable didactique qui est présentée sous cette forme-là, mais aussi les effets de deux tâches qu'on a considérées comme des variables, l'écriture sous la dictée, donc avec l'ensemble des unités linguistiques, et ensuite la tâche de type E7, l'encodage autonome, et on va voir quels sont les effets de l'encodage, de l'écriture sous la dictée et de l'encodage autonome sur les performances des élèves, avec aussi une description des pratiques de classe. Donc, l'influence de l'encodage sur les performances des élèves en code. Je vais laisser la partie écriture au groupe d'écriture qui fera la communication de cet après-midi, donc je me suis concentré sur le code pour l'influence de l'encodage ici. Donc, c'est le fait aussi qu'on travaille, vous voyez, en synergie pour présenter les choses. Donc, l'encodage influence significativement et positivement les performances de l'ensemble des élèves. Alors, lorsque l'on crée des catégories de pratiques, on s'aperçoit que les élèves qui consacrent plus de 45 minutes à des tâches d'encodage obtiennent des résultats qui sont significativement meilleurs que les élèves qui y consacrent moins de 45 minutes par semaine. Donc, les effets sont particulièrement marqués pour les élèves qui obtiennent des scores qui sont forts à l'entrée du cours préparatoire ou des scores intermédiaires en code à l'entrée du cours préparatoire. Ces effets sont moins marqués pour les élèves qui sont initialement faibles, pour qui il s'agit d'une tendance, et vous voyez ici que le seuil s'exerce à partir de 62 minutes par semaine. Autrement dit, c'est quand les élèves consacrent plus de 62 minutes par semaine à résoudre des tâches qui relèvent de l'encodage qu'ils obtiennent des résultats meilleurs que les élèves qui consacrent moins de 45 minutes. Ici, je disais que c'était une tendance. On va regarder les pratiques de classe. Donc, concernant les pratiques de classe, eh bien, on s'aperçoit que dans notre échantillon, les classes des trois premiers déciles consacrent moins de 45 minutes donc, à l'encodage. Et du coup, ici, on s'aperçoit que c'est en dessous du seuil qu'on a identifié de 45 minutes. La moyenne et la médiane, par contre, se situent à la même durée, c'est-à-dire qu'elle répartit équitablement les classes de part et d'autre de la moyenne. On continue avec les tâches d'écriture sous la dictée. Et donc l'influence donc, de l'écriture sous la dictée sur les performances des élèves en code. Là aussi, on note une influence significative et positive donc, de l'écriture sous la dictée sur les performances des élèves en code, et notamment jusqu'à une durée de 33 minutes, qui constitue donc une valeur optimale pour notre échantillon. Donc l'effet augmente jusqu'à cette valeur optimale de 38 minutes. Lorsqu'on regarde ce qu'il en est au niveau des catégorisations des pratiques d'enseignement, on s'aperçoit que les élèves qui consacrent plus de 15 minutes par semaine à des tâches qui relèvent donc de l'écriture sous la dictée obtiennent des résultats significativement meilleurs que les élèves qui consacrent moins de 15 minutes par semaine. Ici, les effets sont très nets pour les élèves qui obtiennent des scores initiaux faibles ou alors des scores intermédiaires en code à l'entrée du cours préparatoire. Cet effet est moins marqué pour les élèves qui sont initialement forts. Vous voyez que les effets s'exercent sur un intervalle qui est réduit et que c'est une tendance, donc par comparaison aux autres élèves de l'étude. Lorsque l'on passe maintenant aux pratiques de classe, eh bien, on s'aperçoit encore une fois que les classes des trois premiers déciles sont en dessous du seuil de 15 minutes que nous avons identifié. On remarque aussi que la valeur optimale de 38 minutes est proche de la moyenne des classes du 9e décile, c'est-à-dire que ce sont des classes qui en font beaucoup dans notre échantillon de pratique ordinaire. Voilà. Et donc ensuite, je passe, si ça marche, à l'encodage autonome, donc qui a été défini comme le fait que les élèves écrivent eux-mêmes les unités linguistiques qu'ils souhaitent produire, lettres, syllabes, mots, phrases ou textes. Donc sur l'encodage autonome, on s'aperçoit que l'influence de l'encodage autonome aussi est positive et significative sur les performances des élèves en code, et que cet effet croît jusqu'à une durée maximale d'environ 35 minutes. Donc c'est assez proche de ce qu'on a pu observer sur l'écriture sous la dictée, mais on va voir que ça ne cible pas tout à fait les mêmes élèves. Ici, lorsqu'on catégorise les pratiques d'enseignement, on s'aperçoit que pour l'ensemble des élèves, ce sont donc les élèves qui consacrent plus de 29 minutes par semaine à résoudre ce type de tâches donc d'encodage, qui obtiennent des résultats significativement meilleurs que les élèves qui consacrent moins de 17 minutes. Ici, les effets sont plus marqués pour les élèves qui obtiennent des scores initiaux forts ou intermédiaires en code. Ils sont un peu moins marqués pour les élèves qui sont initialement faibles, pour qui c'est une tendance entre 29 et 63 minutes. Lorsqu'on observe les pratiques d'enseignement, on s'aperçoit que là aussi, il y a les classes des trois premiers déciles qui ont des durées moyennes inférieures au seuil que nous avons identifié de 17 minutes qui semble être pénalisant pour les apprentissages des élèves. Ici, il faut aussi noter que les classes des trois premiers déciles ne sont pas toujours les mêmes, c'est-à-dire qu'elles changent en fonction des variables qu'on a testées. Nous avions une valeur optimale donc, de 35 minutes qui correspond donc, à la valeur moyenne des classes du 8e décile. Donc encore une fois, ce sont des classes qui en font beaucoup. On continue avec le dernier point qui est donc la lecture à haute voix et donc l'influence de la lecture à haute voix sur les performances des élèves en code et en écriture. Et bien, on s'aperçoit ici aussi que la lecture à haute voix exerce un effet significatif et positif sur les performances des élèves, notamment les élèves qui sont initialement faibles en code et en écriture. Là, c'est un effet qui est très marqué pour ces élèves-ci. Et lorsque l'on catégorise les pratiques d'enseignement, eh bien, on voit que les élèves qui obtiennent des scores initialement faibles ou intermédiaires, donc en code et en écriture, à l'entrée du cours préparatoire, lorsqu'ils passent plus de 30 minutes par semaine à lire à haute voix, cela leur permet d'obtenir des résultats meilleurs que les élèves qui consacrent moins de 30 minutes. Au niveau des pratiques d'enseignement, encore une fois, les classes des trois premiers déciles proposent à leurs élèves des durées de lecture à haute voix qui sont inférieures au seuil que nous avons identifié. Et encore une fois, ce ne sont pas les mêmes classes de notre étude qui sont ici représentées dans les trois premiers déciles. Donc, je vous ai présenté un certain nombre de résultats qui montrent des valeurs optimales dans notre échantillon. Notre échantillon est un échantillon d'enseignants qui sont des enseignants expérimentés. Si on fait l'addition de ces valeurs optimales, on dépasse peut-être le temps qui est prévu pour l'enseignement de la lecture et de l'écriture au cours préparatoire. Donc, il s'agit bien des valeurs vers lesquelles il faut tendre, mais on sait très bien qu'à l'école primaire, on a beaucoup de choses à régler. Donc, on reprend bien l'image qu'a proposée Roland Gogo au début des différents boutons. Donc, ça, c'est sûrement une idée pour essayer de faire des réglages dans la classe et d'essayer de tendre vers les valeurs qui sont peut-être celles qui permettent aux élèves de progresser le plus sans toutefois forcément les atteindre. Donc voilà, je pense que ça permettra à chacun d'effectuer les réglages nécessaires, si besoin, avec ses élèves. Merci.
Les deux dernières questions pour finir, concernant l'effet manuel et le poids des compétences du décodage dans la compréhension autonome. Donc, vous vous souvenez, tout à l'heure, je présentais nos classes en disant que nous les avions catégorisées une fois en variable à 6 catégories, une autre fois en variable à 3 catégories. Vous avez compris que nous avons en fait réalisé les variables en 3 catégories parce que nous suspections qu'il y aurait peu d'effet sur les 6 catégories. Vous allez voir que c'est ce qui se passe. Donc, question, est-ce que les performances finales en code, c'est-à-dire les trois épreuves de code, je vous rappelle, c'était des épreuves de conscience phonologique, lecture de pseudo-mots, lecture de mots isolés, familiers, et lecture de mots en contexte dans une tâche de fluence, lecture à haute voix plus ou moins fluide. C'est ça qu'on appelle des compétences en code, hein, c'est les compétences en décodage, si vous voulez. Là. Donc, sur ces compétences en décodage, on se disait qu'il pouvait y avoir un effet manuel pour deux raisons. La première, c'est que l'usage d'un manuel pourrait avoir un effet structurant sur les pratiques. Donc, les maîtres qui utilisent un manuel verraient leur pratique influencée par les propositions du manuel. Mais aussi, dans l'autre sens, si vous voulez, le choix du manuel pouvait être un indice, pouvait être révélateur de priorités que le maître se donnait. S'il choisissait ce manuel, ce n'était pas par hasard. Vous voyez, la question, c'est de quoi le manuel est-il le signe ? Hein, si on inverse l'interrogation. Donc, d'une manière ou d'une autre, on pouvait penser qu'il y avait un effet lié à cette conjonction de deux phénomènes. Donc, le résultat, c'est celui que je viens de vous donner, pas d'effet de la variable manuelle lorsqu'on la traite en 6 catégories, avec les groupes que nous avions, qui, pour les plus faibles, avaient 12 classes. Vous voyez, 12 classes minimum dans nos plus petits groupes, hein, parce qu'avec 3 ou 5 classes, vous ne faites pas des statistiques convaincantes, on est bien d'accord. Donc, par contre, quelques effets avec la variable en 3 catégories. Et là, après avoir signalé ce que j'ai déjà dit tout à l'heure, c'est que le même manuel pouvait masquer de grandes diversités dans les usages. Mais néanmoins, il y a quelques effets selon qu'on est dans une de ces trois grandes familles, sans manuel, manuel d'orientation intégrative, manuel centré sur le code. Quels sont ces effets ? Alors d'abord, il n'y a pas d'effet global, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'effet moyen, linéaire, tel qu'on les a vus, qui permettrait d'identifier, ou d'effet moyen, disons pas linéaire ici, qui permettrait d'identifier le fait que le fait d'appartenir à l'une ou l'autre de ces trois familles donnerait des performances significativement meilleures. Globalement, il n'y en a pas. Par contre, on a trouvé un effet lorsqu'on s'est mis à distinguer les sous-groupes d'élèves. On parle souvent donc d'élèves faibles ou forts. Faible ou fort, c'est par rapport aux autres élèves de notre échantillon et par rapport à une distribution qui à chaque fois est définie ici autour de 1/2 écart-type en dessous de la moyenne ou au-dessus, 1/2 écart-type au-dessus de la moyenne. Donc c'est des définitions qui sont construites numériquement à l'intérieur de notre échantillon. Ce sont donc les élèves les plus faibles de notre échantillon. Ce qui ne veut pas dire qu'ils sont forcément en difficulté. Il faut faire la différence entre cette comparaison et quelque chose qui est un jugement de valeur sur la suite de leurs apprentissages. Et là, on trouve un effet significatif à 0.03 pour les élèves initialement faibles en code qui progressent moins dans les classes qui utilisent un manuel avec une approche intégrative que dans les classes qui utilisent le manuel centré sur le code, puisque c'était ces manuels-là qui nous servaient de point de repère. Donc, une tendance négative pour les élèves faibles dans la comparaison entre manuel centré sur le code et manuel intégratif. Voilà le résultat que nous obtenons. En revanche, il n'y a aucune différence entre les manuels centrés sur le code et pas de manuel. Aucune différence repérable là, même sur les sous-publics que nous avons identifiés en parlant d'élèves faibles. Et les tendances en compréhension sont à peu près du même ordre, avec peut-être une plus grande sensibilité sur les élèves moyens, les élèves qu'on a appelés intermédiaires. Mais comment essayer de comprendre ça, ou plutôt affiner un tout petit peu ce constat ? Regardez, lorsqu'on prend le quartile, les 25% des classes les plus efficaces, on s'est pas mal intéressé aux extrêmes, aux classes les plus efficaces et aux classes les moins efficaces. 11 maîtres sur les 131 qui n'utilisent pas de manuel sont parmi les plus efficaces. Mais 12 maîtres qui n'utilisent pas de manuel sont parmi les moins efficaces. Vous avez compris que le critère n'utilisez pas de manuel, ça dit rien, l'efficacité, puisque vous pouvez être dans les tout meilleurs comme dans les plus faibles, enfin, par rapport à l'efficacité. On a regardé de la même manière ceux qui utilisaient les manuels intégratifs. Attention, le résultat précédent, ça ne veut pas dire que les maîtres qui utilisent un manuel intégratif ne sont pas efficaces. Regardez, 18 d'entre eux sont parmi les plus efficaces. 18 de ceux qui utilisent un manuel intégratif font partie des 32 classes les plus efficaces. Mais, dans le même temps, 19 d'entre eux sont parmi les moins efficaces. Ça va ? Vous voyez pourquoi la variable manuelle elle a si peu d'effet ? C'est que vous avez... Alors, pourquoi il y a quelque chose qui se passe sur le code ? C'est que quand on regarde les mêmes chiffres sur le code, il y a moins de classes, il n'y en a que 25. 4 maîtres utilisant un manuel centré sur le code sont parmi les plus efficaces, et un seul fait partie des moins efficaces. En d'autres termes, si on ramène ça en termes de pourcentage, en proportion, les maîtres qui utilisent un manuel centré sur le code sont moins nombreux parmi les plus efficaces. Ils sont que 16%, les autres étaient 27 ou 28%. Mais ils sont beaucoup moins nombreux parmi les moins efficaces. Ils ne sont que 4%, alors que les autres étaient 25%. Voilà le constat. Ce n'est pas une explication causale, mais ça permet de raisonner un peu. Et là, on voit que les maîtres qui utilisent le code sont surreprésentés dans les deux quartiles intermédiaires et les deux quartiles moyens. Comme si le choix de ce manuel centré sur le code, moins risqué, était corrélé. Alors lui, il est corrélé, ça c'est pas une causalité, il est corrélé à une efficacité plutôt moyenne. Et vous avez compris à travers ça que le critère manuel va pas suffire pour être significatif pour un maître expérimenté, parce qu'il ne dit pas assez de choses sur ce que sont vraiment ses actes professionnels, sa pratique, qui elle influence les apprentissages, comme Jérôme l'a montré sur d'autres critères. Dernière question, le poids des compétences de décodage dans la performance finale. En quoi le fait de bien déchiffrer, ça permet de bien comprendre ? La question, je vous rappelle, la question du jour, c'est qu'on essaye d'interpréter les différences finales, et là, en particulier, les différences de compréhension des textes. Et ce qui veut dire que là, nous rentrons dans un débat scientifique, qui est un débat lancé par les Américains dans les années 80, autour de ce modèle de Simple View of Reading, et qui avait été beaucoup relayé dans les années 98 par l'Observatoire national de la lecture. Nous n'étions pas satisfaits des résultats, pour de multiples raisons, mais notamment en raison des outils d'évaluation utilisés. La plupart du temps, on évalue la compréhension en évaluant la compréhension de phrases isolées, ou de textes tellement courts et tellement simples qu'il suffit de savoir déchiffrer pour les comprendre. Auquel cas, vous voyez bien que la compétence de décodage vous donne la performance de compréhension. Mais ce n'est pas sérieux, ce n'est pas ça de la compréhension de texte. Ce n'est pas simplement de comprendre une phrase qu'on arrive à déchiffrer. C'est donc d'être capable, à la fin du CP, de comprendre un récit complet, cohérent, adapté à des élèves de CP, bien sûr, mais impliquant un vrai traitement de l'implicite, ce qui est rarement le cas dans les tests dont on dispose, y compris d'ailleurs auprès de l'ADEP à la fin du CP, hein, très clairement. Donc on a construit un autre test, la poule noire, 82 mots, donc c'est pas long, et deux modalités d'évaluation de la compréhension, une résolution de problème, les enfants ont un décor, ils ont des images, il faut qu'ils placent les images sur le décor pour montrer qu'ils ont compris ce qui s'y passe. Et deuxième modalité, après avoir lu la suite du texte, ils doivent répondre, mais vous voyez bien, répondre oralement à des questions qu'on leur pose oralement. Si vous ne voulez pas revérifier de la lecture à travers un questionnaire dans lequel ils devront de nouveau lire les questions, et dans ce cas-là, vous réduisez les questions à leur plus simple expression pour qu'ils arrivent à les lire. Donc si vous voulez savoir ce qu'ils ont compris en lecture silencieuse autonome, et là personne ne les aide, il faut après les interroger à l'oral en les laissant répondre à l'oral. Ça veut dire qu'il faut faire une évaluation individuelle en tête à tête, ça veut dire qu'il faut des étudiants salariés, ça veut dire qu'il faut que la DGESCO mette de l'argent sur la table. Merci la DGESCO. Donc le texte, il se déroule, les enfants ont un décor, ils ont des images, on leur a découpé, ils vont les poser au bon endroit, ils montrent qu'ils ont construit une bonne représentation mentale de la situation. Ils lisent la suite du texte, on leur pose des questions, ça c'est l'expérimentateur qui a ces questions sous les yeux, pas les enfants, on les leur pose, ils répondent à l'oral, et ça nous permet d'évaluer leur niveau de compréhension en lecture, le texte lu, donc, en lecture autonome. Donc ça, ça change tout, et quand ça change tout en termes d'évaluation, la lecture c'est quoi ? Pour paraphraser Binet, c'est ce que mesure notre test pour l'intelligence. Et tant que vous ne prenez pas ça au sérieux, vous dites n'importe quoi sur la lecture, tant que vous n'allez pas regarder les tests que les gens utilisent pour dire ce qu'ils appellent savoir lire. Donc voilà ce que nous appelons savoir lire. Nous appelons savoir lire, c'est savoir à la fin du CP résoudre ces problèmes de compréhension. Qu'est-ce qui permet d'expliquer la performance finale dans notre modèle théorique ? Les compétences de décodage, évaluées à travers la lecture de pseudo-mots. Nous reprenons les épreuves de Liliane Springer-Charol, et nous la remercions au passage. Des épreuves de compétences phonologiques, nous reprenons les épreuves de Springer-Charol, et nous la remercions au passage. La compréhension de textes entendus. Alors là, nous remercions le groupe qui a fabriqué une épreuve qui évalue les compétences des élèves à comprendre des textes que nous avons enregistré, merci Pierre Sève qui est dans la salle, qui a enregistré de sa voix théâtrale trois récits que nous faisions entendre aux enfants à partir des ordinateurs, des évaluateurs, et questions orales, réponses orales, pour voir ce que les élèves comprenaient de ces textes. Si ce n'est pas seulement du décodage, on peut s'attendre à ce que ces compétences à comprendre des textes lus par l'adulte deviennent des compétences importantes, avec une variable de contrôle qui était un facteur qui on va dire, un facteur général. Les résultats sont exactement ceux qu'on attendait et qui ne sont pas ceux de la littérature classique parce que ce n'est pas les mêmes épreuves. Si, au départ, les mêmes résultats que Springer-Charol, Jantaz, PLOS 2015, la publication la plus récente, où on voit l'impact du décodage à 0.37 pour expliquer les 46% de variance de cette variable, mais regardez, compréhension de texte entendu à 0.29, Ça veut dire très franchement que si vous voulez comprendre le fait que les élèves comprennent bien ou pas un texte, il vous faut savoir ce qu'ils savent déchiffrer, mais il vous faut aussi savoir ce qu'ils savent comprendre lorsqu'on leur lit les textes. Sous-entendu, évidemment, et ça sera la suite, est-ce qu'on leur a appris à comprendre les textes qu'on leur lit ? Est-ce que ce sont des compétences qui sont enseignées ? Voilà. Mieux les textes, mieux les élèves comprennent les textes qu'on leur lit, mieux ils comprennent les textes qu'ils lisent seuls. Les compétences en décodage, pour importantes qu'elles soient, n'épuisent donc pas l'explication de la qualité de la compréhension. Et les conséquences de ce constat, qui là est solidement étayé avec ces données quantitatives basées sur les élèves, vont être reprises maintenant dans la communication suivante pour essayer de voir dans quelle mesure ces compétences fortes, critiques, que sont les compétences de compréhension, souvenez-vous, la première communication, ont montré que c'était le domaine dans lequel la pédagogie avait le moins d'influence. Le suspense est à son comble. La réponse arrive.